Et oui, qu'il est beau, notre générique de Vendredi Théâtre. Je rappelle qu'il s'agit d'un extrait de Prokofiev, un extrait de Roméo et Juliette avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, comme toutes les semaines, l'actualité théâtrale avec nos chroniqueurs. Je suis avec la belle Grazia. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Et nous allons parler d'une héroïne assassine, comme je le disais tout à l'heure, une héroïne assassine et hugolienne, puisque au Théâtre des 13 Vents se déroule la pièce Lucrèce Borgia d'après Victor Hugo. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Lucrèce, alias Marina Hans, bonjour.
Bonjour.
Et Gennaro Nino Rocher, bonjour.
Bonjour.
Alors, Victor Hugo, je vais essayer de ne pas être trop dithyrambique parce que les auditeurs savent que je suis quand même très hugolien. J'adore Victor Hugo. Lucrèce Borgia, c'est une pièce qui a été créée en 1833 par Victor Hugo et c'est un drame de la maternité. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Un drame de la maternité, disons que la maternité ajoutée à la monstruosité crée un drame et une contradiction et un conflit intérieur extrêmement passionnant.
Alors les Borgia, je me tourne un petit peu vers Grazia, puisque famille italienne, c'était une sacrée famille puisqu'il y avait un pape.
Il y avait un pape, oui,
Alexandre
VI Borgia, qui a eu 4 enfants, dont Lucrèce, les 3 autres étant des
Il y a eu César Borgia.
Il y a eu César, qui est connu sous le nom du duc de Valentinois. Hein. Et ça a été, c'était une famille très, très particulière. Hein. Le père avait des appétit politique énorme.
Et sexuel.
Oui, mais enfin ça servait plutôt ses appétits politiques. Et en fait, il a sacrifié une partie de ses enfants et peut-être pas César, mais en tout cas Lucrèce certainement, en la donnant en mariage d'abord à un représentant du camp français, des Sforza de Milan. Après, il voulait se rapprocher. Parce que l'Italie, à l'époque, était gouvernée au nord par les Français et au sud par les Espagnols. Et le pape était au milieu. Donc, bon, il fallait qu'il cherche des alliances au gré des vents. Hein, comment... et Lucrèce, elle a été, moi je pense, sacrifiée par son père pour cela. Et c'était, enfin, moi je suis désolée, mais je voudrais dire vite quand même que dans une société patriarcale comme celle où vivait Lucrèce, d'ailleurs dans la pièce de Victor Hugo, ça ressort bien cette difficulté à être, à agir, parce que Lucrèce c'était quand même quelqu'un qui a été son troisième mari, donc Alphonse X ou quatrième, je ne sais plus, parce que j'ai perdu.
Mais enfin bon,
elle l'a respecté quand même. Lucrèce a été une bonne duchesse de Ferrare. Elle a protégé les arts. Elle a été gouvernatrice de Spoleto, ce qui était une énorme province à l'époque. Enfin, c'est pas quelqu'un qui ce n'est pas que l'être abominable dont tout le monde veut se souvenir.
Les Borgia, c'est aussi les poisons, hein, les poisons des Borgia. Est-ce qu'on peut un petit peu résumer l'intrigue ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette intrigue ?
En fait, c'est l'histoire de cette femme qui commence la pièce en étant présentée comme justement cette abominable Lucrèce Borgia, à qui on attribue tous ses meurtres, qui pâtit de son nom et de sa famille, et qui décide et qui veut, dès le début de la pièce, se laver justement de cette renommée macabre, qui veut récupérer son identité propre pour pouvoir se présenter à ce qu'on croit être son fils caché, qui est Gennaro, qui est ce capitaine vénitien. Et elle voudrait pouvoir le voir, le rencontrer totalement purifié de sa mauvaise réputation. Et évidemment, ça va devenir impossible, malheureusement pour elle.
Et Gennaro, donc, c'est le fils caché qu'elle aurait eu avec son frère, parce qu'il est question
Exactement.
Aussi d'inceste.
Jean Borgia.
Jean Borgia, qui aurait été assassiné, on le suppose, par César Borgia, qui était aussi l'amant de Lucrèce.
Oui. Exactement.
Une sacrée famille, quand même.
Une sacrée famille.
Oui, mais c'était un peu l'époque. Hein,
oui, c'est vrai.
Il n'y avait pas que les Borgia, c'était comme ça. C'était une société complètement dissolue. Quoi.
Mais c'est bien parce que c'est ce fils d'un inceste que Lucrèce ne peut pas lui dire la vérité. Et toute la pièce se tient là-dessus, c'est qu'elle voudrait lui parler, elle voudrait lui communiquer son amour, et en même temps, si elle lui dit, elle le souille, elle le brise, en fait. Donc elle cherche à le protéger toute la pièce, tout en essayant d'avoir par moments des moments comme ça d'amour, de pureté avec lui.
Gennaro n'est pas au courant, en fait, qu'il est le fils caché de Lucrèce Borgia.
Et non, il se doute bien que son identité a quelque chose de mystérieux, puisque des hommes masqués, sourds et muets, viennent lui adresser des lettres et s'occuper en quelque sorte de son devenir. Mais lui s'est construit seul dans cette société dissolue, et s'est construit surtout dans un rêve de cette mère qu'il espère tout autre que l'exemple qu'il a tout autour de lui.
Il idéalise complètement
cette femme, cette mère, et c'est aussi ça qui crée cette impossibilité pour Lucrèce de lui avouer. C'est qu'elle voit aussi, au fil des rencontres qu'ils ont avant qu'elle finisse par lui avouer, tout à la fin, qu'elle ne peut pas lui avouer, parce que elle voit à quel point lui s'est construit dans cette volonté de retrouver cette mère qu'il imagine si pure et qui n'est pas ce qu'elle pense être.
Et il y a aussi les compagnons de Gennaro qui ont tous été victimes dans leur famille des Borgia, et principalement de Lucrèce, et donc qui vont lui dire pique-pendre de sa mère. Donc il ne sait pas quelle est sa mère.
Exactement. Eux rêvent de cet ennemi idéal qu'est Lucrèce Borgia, qui pour eux est la femme qui a fait du mal à toute leur famille. Et en même temps, Gennaro est un peu exclu de ce groupe, puisqu'il ne vit pas avec la même problématique. Quelque part dans la pièce, ça a été dit, c'est le seul qui finalement n'est pas orphelin, puisque c'est le seul qui a sa mère quelque part, et il est un petit peu, de par son histoire, de par ce qu'il est, il est exclu de ce groupe. Ça reste le capitaine, il a une place très particulière dans ce groupe, mais il est un peu exclu, et il y a une forme de jalousie ou de la part des autres qui ne comprennent pas sa problématique à lui.
Il est complètement à part en même temps du groupe, hein. C'est assez particulier.
Il est à part. On sent qu'il n'a pas été formé de la même manière. Il ne porte pas les mêmes choses sur les épaules, et il n'a pas le même but, on va dire.
Et il y a un autre personnage dont on n'a pas parlé, c'est le quatrième mari. C'est le quatrième, je crois. Le quatrième mari qui va s'avérer assez malfaisant, lui aussi.
Don Alphonse. Mais en fait, c'est le génie d'Hugo, c'est de construire comme ça une intrigue très simple, avec une femme qui essaye désespérément de dire quelque chose de réel et de sincère d'elle-même, et qui se trouve face à des malentendus, scène après scène. Et donc, son mari, à qui elle dit à un moment donné, écoutez, maintenant il faut me protéger, il faut que vous essayiez de comprendre ce que je vis. Lui est absolument persuadé dans sa jalousie folle que ce Gennaro est son amant. Et elle va essayer de lui faire entendre raison sans pouvoir, pareil, avouer les choses aussi atroces soient-elles qu'un viol ou un inceste. Son mari ne pourra pas l'écouter. Donc ça parle aussi de ces hommes un peu autour d'elle qui refusent obstinément d'être un peu plus dans l'écoute et dans l'ouverture, en fait.
Quelque part, Gennaro en fait partie, le premier. C'est... souffre de cet aveuglement qui vient en fait d'une sorte de manque de recul et d'écoute de cette femme.
Gratia, tu étais avec moi quand on a vu la pièce. On a parlé longuement du personnage ensemble de
oui.
Lucrèce.
Oui, on a parlé longuement de ce personnage, parce qu'effectivement, dans la pièce, il y a vraiment ce drame, le drame de cette femme qui est mère avant tout. Et ça, c'est très bien vu, quoi, dans la pièce d'Hugo. Puis bon, bah, c'est la, la, Le jeune Gennaro, il semble porter le drame de tout orphelin quand même, hein, celui qui n'a pas d'identité, qui n'a pas de parents. Et donc en même temps, il idéalise forcément cette mère qu'il n'a jamais connue. Il ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est très bien vu, quoi. J'ai beaucoup apprécié cette façon de voir les choses. Et si on parlait aussi un petit peu de la mise en scène, peut-être que...
Absolument.
Avec cette metteuse, comment on dit en français, metteuse en scène.
Voilà. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à parler, voilà. À passer dans les mœurs, quand même.
Metteuse en scène.
Un peu féminisée, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années.
Lucie Berelovitch, oui. Qui a été formée à Moscou, j'ai vu ici, au conservatoire de Moscou.
Oui.
Ça faisait un peu russe, hein, le décor et tout ça. Bon, cette folie un peu. Ouais, vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, en fait, l'univers de Lucie, moi je la connais depuis très longtemps et j'ai vu son travail depuis le début. C'est un univers qui est très inspiré du conte, du rapport à l'imaginaire. Elle travaille sur plusieurs lectures en fait de la pièce. Il y a un aspect très physique. Et en même temps très onirique. Ouais. Elle mélange l'animalité et l'onirisme. Et donc ça donne, je pense, quelque chose de très vivant, très coloré et en même temps très lumineux. Ouais. Donc on a travaillé avec elle vraiment en troupe, en groupe. On a travaillé énormément sur le corps. On a fait beaucoup d'improvisation. Chacun a apporté sa sensation, son inspiration propre par rapport à son personnage. C'est quelqu'un qui travaille vraiment avec un collectif. Elle a des collaborateurs artistiques qui sont extraordinaires au son, la scénographie. Tout s'est construit progressivement, en fait.
C'est une équipe très jeune, hein, pour dans l'ensemble, dans la majorité.
Lucrèce est morte à 39 ans. Hein.
Oui.
Voilà.
Et comment vous avez abordé le verbe hugolien ? Je rappelle que c'est une pièce en prose, hein, ce n'est pas une pièce en alexandrin. Comment vous avez abordé le verbe hugolien ? Est-ce qu'il n'y a pas un trac quand on aborde un auteur comme ça ?
Alors en fait, nous on a fait une lecture de... Ensemble, on a lu d'autres pièces d'Hugo.
Voilà. Mm-hmm.
Et on en a lu en alexandrin. Et c'était tellement contraignant qu'en fait on était très heureux.
On était très heureux de travailler sur Lucrèce et on a du coup en fait le travail qu'on a fait sur le texte a aussi permis de désacraliser en quelque sorte la chose et de pouvoir vraiment du coup nous amuser avec, faire totalement confiance à l'écriture d'Hugo qui est extraordinaire et juste prendre plaisir à aborder la chose sans trop se prendre la tête et en étant vraiment assez heureux de travailler ce texte et
avec simplicité.
Simplicité. Ouais.
C'est vrai que le verbe hugolien, il aide aussi. Ouais. Il aide.
Il est fait pour les acteurs, trouve. C'est... Il y a quelque chose de très organique. Ça paraît fait pour être joué.
C'est une réelle partition, en fait.
C'est vrai que Hugo, il était très proche des acteurs et surtout des actrices. Parce que, en fait, c'est pendant les répétitions de Lucrèce Borgia qu'il a rencontré Juliette Drouet, pour la petite anecdote. Et d'ailleurs, il sortait d'un échec scénique, puisque l'année d'avant, il avait fait Le Roi s'amuse, qui est devenu en opéra Rigoletto, qui avait été un bide total.
Qui avait été censuré, en fait.
Oui, en plus.
Ouais, interdit.
Et là, il se voit avec Lucrèce Borgia devant un grand, grand succès.
Il l'a écrit en 3 semaines.
Oui, c'est vrai.
C'est une réponse à ce bide.
Oui, il a dit, vous ne m'empêcherez pas d'écrire.
Voilà.
Comment empêcher Victor Hugo d'écrire ?
Il avait 30 ans quand il a dit ça, et ben, il avait raison.
Mais c'est vrai que c'est une pièce qu'il a écrite à 31 ans. Il est né en 1802, c'est écrit en 1833, on va dire 31.
31, très bien.
Que je vais Donizetti vous demander... a mis en musique juste après.
On parlera de Donizetti après.
Six mois après. Ouais, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure.
Voilà. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait pour voir un petit peu ce que ça donne ?
Oui.
Voilà.
Alors... cette terrasse est obscure et déserte, je puis me démasquer ici. Je veux que vous voyez mon visage, Gennaro.
Vous êtes bien belle.
Regarde-moi bien, Gennaro, et dis-moi que je ne te fais pas horreur.
Vous me faites horreur, madame. Et pourquoi ? Bien au contraire, je me sens au fond du cœur quelque chose qui m'attire vers vous.
Donc, tu crois que tu pourrais m'aimer, Gennaro ?
Pourquoi non ? Pourtant, madame, je suis sincère. Il y aura toujours une femme que j'aimerais plus que vous.
Je sais. La petite Fiametta.
Non.
Qui donc ?
Ma mère.
Ta mère. Ta mère. Mon Gennaro, tu aimes bien ta mère, n'est-ce pas ?
Oui, et pourtant je ne l'ai jamais vue. Voilà qui vous paraît bien singulier, n'est-il pas vrai ? Tenez, je ne sais pas pourquoi j'ai une pente à me confier à vous. Je vais vous dire un secret que je n'ai encore dit à personne, pas même à mon frère d'armes, pas même à ma fille Orsini. Cela est étrange de se livrer ainsi au premier venu, mais il me semble que vous n'êtes pas pour moi la première venue.
Bravo, bravo, bravo et merci pour ce petit extrait. C'était très beau.
Très, très beau.
C'était très, très beau. C'est vrai qu'il y a, au début, il y a quand même une ambiguïté parce que Gennaro, il s'imagine être dragué.
Exactement.
Par, par cette,
exactement.
Par cette dame dont il ne sait pas qu'elle est Lucrèce et qu'elle est sa mère.
Au début, très attiré par, par cette femme qui est d'une beauté incontestable.
Je ne dirais pas qu'elle était si belle que ça.
La nôtre est belle.
Absolument, je suis complètement d'accord. Mais dans la réalité, il paraît qu'elle n'était pas non plus une grande, grande beauté.
Alors, on sent très bien dans la pièce l'influence de Shakespeare, puisque Shakespeare était très... avait marqué beaucoup Hugo. D'ailleurs, je ne vais pas dévoiler la fin, mais dans beaucoup de pièces de Shakespeare, la scène est jonchée de cadavres. Et c'est un petit peu le cas avec Lucrèce Borgia.
Il y a le rapport au sommeil aussi, au songe. Et puis, des changements de registre aussi, c'est-à-dire de le rapport à la tragédie et à la comédie à l'intérieur de la pièce, qui est quelque chose de très shakespearien. Des moments avec des personnages qui sont un peu comme des bouffons ou un petit peu comme des diablotins qui sont là et qui rendent compte d'un drame, mais avec humour, et qui soulèvent comme ça un peu l'énergie. Et puis des moments extrêmement lyriques, extrêmement au premier degré, comme ça, et romantiques. Et c'est vrai que je trouve qu'Hugo joue avec ces choses-là, comme le théâtre anglo-saxon de l'époque shakespearienne. Ouais.
On va rappeler que Lucrèce Borgia se joue au Théâtre des 13 Vents. Donc ce soir, c'est à quelle heure ? Ce
20h30. Soir,
à 20h30 et samedi, c'est à 19h. Alors quand on a été à la première, c'était bondé.
Oui, en fait, là, il y a des listes d'attente tous les soirs depuis la première.
Ça, c'est plutôt bien d'avoir des listes d'attente pour les pièces de Victor Hugo.
Oui, ça se passe bien.
On parlait tout à l'heure de Donizetti. C'est vrai que Donizetti a créé un opéra Lucrezia Borgia. 6 mois après la création à Paris, il a créé à la Scala de Milan. Et on va écouter tout de suite. Il me reste à vous remercier quand même pour nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Et on va se quitter avec Lucrèce Borgia et Maria Callas.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'eût été un crime d'interrompre Maria Callas dans cet extrait de Lucrèce Borgia de Donizetti, un enregistrement de 1965. Vendredi théâtre, toutes les semaines l'actualité théâtrale. Je suis toujours avec Grazia. Et nous allons aborder maintenant un deuxième plateau, un spectacle qui s'appelle Le Barillet, qui se joue à la Vista. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Jean-Pierre Pelaez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur. Et Philippe Goudard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène. Alors, Le Barillet, nous allons parler de revolver, nous allons parler d'armes à feu. Il s'agit en fait de plusieurs scènes, de plusieurs... Est-ce que c'est des sketchs ? Est-ce que c'est des scénettes ? C'est une question, comment définir ?
Non, ce ne sont pas des sketchs. Disons, c'est un ouvrage assez particulier, donc, que j'avais commencé en 1986. Donc il s'est écrit sur une longue période de 25 ans. 1986, c'est lorsque j'ai débuté au théâtre. Hein, c'était mes toutes premières années d'auteur dramatique. Et j'en ai encore écrit. Donc ce sont des variations, en fait, ou des exercices de théâtre. J'avais repris le principe de Raymond Queneau, des exercices de style.
Ah oui.
Appliqué à l'écriture dramatique, puisque lui, il l'avait appliqué au récit, au roman. Mmh. Et là, c'était appliqué à l'écriture dramatique. Donc, il s'agissait de, à partir d'un petit thème tout simple, c'est-à-dire une situation de crise qui devait se terminer à coup de revolver, il fallait passer dans une infinité de situations, de styles dramatiques différents. Voilà, donc j'avais commencé à en écrire 36 en 86. Et ça a eu énormément de succès dès le début. Et donc, après, j'en ai écrit une 43 de plus. J'en ai réécrit. C'était en 92. En 2000, j'en ai écrit 21 de plus et j'en ai encore écrit 17 de plus à l'occasion des 25 ans de l'ouvrage. C'est une commande de la ville de Béziers.
Alors, ce qui est incroyable, donc ça a évolué avec les années, c'est toujours d'une actualité
tout à fait.
Absolument étonnante.
Il y a une mise à jour systématique.
Donc c'est de plus en plus d'actualité. Lorsque j'ai commencé, c'était très décalé par rapport à la société. Puisque bon, moi je ressentais c'est déjà cette violence qui commençait à monter, mais je crois qu'aujourd'hui, plus personne n'en doute.
Vous êtes un peu dépassé par les réalités.
Oui, non, pas dépassé, mais lorsque je regarde les informations, je me dis qu'on est en plein dans le barillet. Ça tire dans tous les coins.
Je vais me tourner vers Philippe Goudard. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène ces textes ?
Alors, c'est d'abord une demande de l'auteur. Il m'a invité à le faire et j'ai très vite accepté pour les raisons qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire que ce texte est d'une actualité, je dirais, permanente et la confrontation avec les réalités sociales et son côté d'enquête comme ça ou d'investigation sociale et m'a plu aussi, c'est-à-dire comment en attrapant cette thématique par différentes catégories sociales ou fonctions dans notre société, on voit que la violence couvre, qu'elle court comme ça entre les lignes dans les comportements et qu'elle est toujours prête à exploser et qu'elle a besoin pour ça de justifications plutôt simplistes et comme les derniers mois nous ont valu de nombreuses mises en ondes hertziennes ou radiophoniques de discours très simplistes hein, pour gagner l'électorat, ça m'a amusé et en même temps j'ai trouvé ça tragique. Donc on est dans quelque chose qui met en valeur cette force de la drôlerie, du rire, de l'humour à être toujours très borderline avec le tragique. Mm-hmm. Et qui est là qui prend un sens que j'ai souhaité faire courir au long de la mise en scène. C'est-à-dire qu'on commence effectivement par quelque chose qui peut commencer par un théâtre cabaretique, par un théâtre à sketch. On serait plutôt chez Carl Valentin ou enfin, oui. Probablement des choses plus récentes. Et puis petit à petit, le rire se coince un peu parce qu'on le met en résonance avec une actualité de plus en plus prégnante. Et d'ailleurs, lorsque nous avons créé l'œuvre de Jean-Pierre, enfin cette adaptation qu'on a faite ensemble d'une partie de ces pièces, les récents événements des États-Unis n'étaient pas encore venus donner un poids malheureux à tout ce que nous avions entrepris.
On y pense.
On y pense, oui, pendant le spectacle. Alors, il y a combien de scénettes qui ont été sélectionnées?
Alors, actuellement, on en a pris 20. C'est-à-dire, chaque metteur en scène, c'est aussi l'originalité de ce texte, chaque metteur en scène qui monte un spectacle avec ses scènes en choisit une vingtaine. Pour une vingtaine, c'est à peu près une heure. Hein, bon. Donc, il les ordonne en fonction de ce qu'il veut faire passer. Mais en tout, il y en a 117. Dans le spectacle, il n'y en a pas 117. Le spectateur partirait à 4 heures du matin. Donc non, il y en a une vingtaine et le spectacle dure une heure à peu près. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est Claude Pieplu qui avait trouvé cette expression, j'avais trouvé extraordinaire. C'est
le grand
parler de kaléidoscope. Il disait que c'était un kaléidoscope théâtral. Et c'est vrai que suivant comment on ordonne et on choisit les scènes, on aboutit à des spectacles totalement différents. Mais c'est une très grande richesse. Parce qu'il y a une dimension à la fois dans le Barillet, et je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup plu, il y a une dimension stylistique, c'est-à-dire que c'est de l'écriture dramatique, mais j'ai exploré toutes les formes d'écriture, toutes les possibilités d'écriture dramatique possibles que j'ai pu inventer, ou retrouver, ou pasticher, etc. Mais c'est aussi, il y a un aspect sociologique, à savoir qu'on passe dans des tas de milieux sociaux différents, des tas de milieux socio-professionnels, dans le spectacle justement que vous avez pu voir hier soir. On passe par exemple d'une radio catholique avec un prêtre à une émission de télé-réalité qui n'a plus rien à voir. Enfin, vous voyez, on passe dans différents domaines sociologiques. Donc, c'est à la fois un miroitement, enfin une espèce aussi de kaléidoscope de la société en même temps.
Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas Radio Cato ici.
Non.
Ça, je crois que c'est le sketch qui m'a fait le plus hurler de rire. Ah ouais.
Si vous prenez la variation, vous la passez ici, on pensera à un moment qu'on est sur une radio catholique.
C'est très drôle.
Ouais, c'est le sketch qui m'a fait le plus rire. Oui, oui. J'étais mort de rire. Mort de rire.
Ouais, celui de la prostituée qui sort de prison aussi. C'est très, très drôle. Moi, j'ai beaucoup ri. Ouais. Mais enfin, bon, en tant que spectatrice, au début, je me suis posé la... Enfin, au début, non, pas... Enfin, au début, j'ai vu tout de suite que c'était une mise en scène, des chasses d'un côté, des chasses d'un autre. Il y allait avoir un affrontement. Enfin, moi, je l'ai ressenti tout de suite. Et puis après, alors c'est quoi le revolver? C'est un remède universel contre...
C'est le remède universel, c'est la panacée des esprits simplistes.
Mais voilà, parce qu'à la fin, ils s'entretuent entre eux, donc c'est complètement inutile, c'est là l'absurdité.
Bien sûr, mais c'est absurde complètement, on est quand même dans du théâtre de l'absurde. On est sur des solutions simples. La solution la plus simpliste, de toute façon, de l'humanité, ça a toujours été excusez-moi l'expression, de se foutre sur la gueule. Quoi.
Exactement.
Voilà. Donc si vous regardez les films, les téléfilms, etc., ça fourmille de revolvers. Il y en a partout.
Oui, il y a la cartouche.
On a l'impression qu'on ne sait plus. Les hommes ne savent plus se parler autrement qu'à coups de revolver.
Ou de pistolet.
Ou de pistolet, c'est pareil. Pistolet. Revolver.
Non, le revolver est plus fiable parce que le pistolet s'enraye.
Voilà. Techniquement, c'est différent puisqu'il y a un barillet dans le revolver qui tombe. Voilà, donc.
Enfin, c'est un spectacle. Moi, j'ai beaucoup ri. J'ai pensé à un auteur quand j'ai vu le spectacle. C'est Max Aube. Je ne sais pas si vous connaissez Les Crimes exemplaires, qui a été écrit il y a au moins 70 ans, qui lui aussi faisait des petits textes, mais où il parlait de crimes et c'était absurde. Voilà, c'est une vieille lecture. Et alors, le public qui vient voir le Barillet.
Oh ben, ça riait beaucoup.
Oui, les gens sont contents. Mais je crois que ça tient aussi à une distribution tout à fait dynamique et avec deux acteurs.
On n'a pas cité le nom des comédiens.
Nathalie Robert et Gérard Masco qui sont vraiment, qui ont une palette de jeux très, très large, hein, qui peuvent passer de choses plutôt intérieures ou tragiques. À des choses tout à fait amusantes et dans une tradition de comédie ou même de farce, hein, il y a des choses qu'on a voulu ainsi. Alors ils sont vraiment tous les deux épatants et c'est quelque chose qui nous a guidés, Jean-Pierre Pelaez et moi, lorsqu'on a réalisé l'adaptation. On s'est très vite, en définitive, intuitivement, comme ça, spontanément, dit tiens, ça serait amusant de travailler sur un couple homme-femme. C'est-à-dire que certaines des scènes sont n'ont pas de genre. Elles pourraient être jouées par deux hommes ou deux femmes indifféremment. Et on a choisi des scènes qui mettent, qui mettent en jeu un homme et une femme. Ça nous semblait intéressant, dynamique, porteur aussi de convergence ou d'opposition, cette question du genre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les improvisations qui sont nées au cours du travail de plateau, il est apparu, on changeait comme ça. C'est-à-dire que soit Gérard Masco, soit Nathalie Robert jouaient un rôle, puis la répétition suivante, on inversait. Et on s'est rendu compte petit à petit que la femme, en fait, tenait un rôle moteur dans cette violence. Bon, je n'en tire pas de conclusion particulière, mais j'ai trouvé que c'était... Oui, non, bien sûr. Mais c'était un peu impertinent. Non, il y avait quelque chose là d'inattendu et on a décidé de l'accepter, de l'assumer, de s'en amuser et aussi pour dire des choses plus graves sur la relation entre les deux protagonistes. Donc c'était, je pense que le public, les spectateurs, effectivement font un excellent accueil depuis la création. Bon là, nous sommes au tout début, j'espère, de quelque chose qui sera plus long, 7 ou 8 représentations, mais les gens rentrent... aisément dans nos propositions, il y a le rire et au-delà du rire, c'est pas seulement...
Oui, la réflexion, voilà. Ça donne à penser, enfin je veux dire, ça donne à réfléchir absolument. Mmh. Cette violence est bien présente dans notre société. Bon, maintenant, la résoudre en se tirant dessus à coups de revolver, peut-être pas, mais...
on va y réfléchir.
C'est une pièce qui fait réfléchir aussi.
Oui, ce n'est pas la solution. C'est pas la solution qu'on veut mettre en valeur.
Non, pas du tout.
Qu'on veut dénoncer.
Tout à fait.
Oui. Voilà, par rapport à des propos qu'on a pu entendre encore récemment, xénophobes, ou de rejet de l'autre, ou de que l'autre serait un danger, et qui d'ailleurs dans le paysage politique actuel sont portés par une femme.
Absolument.
Donc ça nous a intéressé de faire ce constat.
Ouais, on rit, mais parfois c'est un rire amère.
Alors c'est au théâtre La Vista, un théâtre qu'on aime bien à Divergence et à Vendredi Théâtre. Alors c'est donc jusqu'à dimanche à La Vista ?
Dimanche à 18h30.
Et sinon c'est à 19h.
Samedi à 21h et ce soir à 19h.
À 19h. Et après ça va tourner, je crois.
Après, s'il repart à Pézenas,
il repart à Pézenas,
ça s'est déjà joué 2 fois à Pézenas, ça se rejoue encore 2 fois à Pézenas, je n'ai pas les dates.
Alors, Pézenas, c'est du 23 février au 2 mars,
voilà,
ce qui est marqué sur le petit papier.
Le 23 février et le 2 mars, voilà, c'est
deux théâtre dates. De Pézenas.
Voilà, l'illustre théâtre.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. Et on va se quitter avec quelqu'un qui manie très bien le revolver, l'inspecteur Harry, alias Clint Eastwood, et qui va commencer par nous faire une apologie de son arme, le 44 Magnum. Voilà. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Et allez à La Vista.
I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Well, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being as this is the .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off, you have to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?
93.9. Divergence FM.
Divergence FM, le 93.9, avec les jingles de Divergence FM, des jingles maison, je le rappelle. Vendredi théâtre qui nous parle de l'actualité théâtrale toutes les semaines, tous les vendredis, comme son nom l'indique, et nous allons aborder le dernier plateau. Il s'agit de Dracula, un spectacle qui est au Carré Rondelet. Donc nous recevons Nicolas Guépin, bonjour.
Bonjour.
Je n'ai pas écorché votre nom.
Non, c'est parfait.
Et Mathieu Rousset.
Bonjour.
Bonjour. Alors, adapter le roman de Bram Stoker au théâtre, ça pouvait sembler une gageure.
Tout à fait, ouais. C'était pas évident au départ, mais on a testé, on a essayé, sachant que l'objectif que je m'étais fixé au départ, c'était vraiment d'essayer de retranscrire les ambiances, pas toutes les images, il y en a beaucoup trop. Et
je rappelle que le roman, il fait plus de 500 pages. Hein.
Oui, en fonction des éditions, 500, 600, tout dépend. Et il y a pas mal de personnages, c'est un roman épistolaire, donc c'est des journaux. C'est un roman qui mélange, comme pas mal à cette époque, et le fantastique et le roman policier tel qu'on le connaît actuellement. Donc il y a ces deux éléments et c'est une enquête. Enquête qui, maintenant, est un peu éventée parce qu'à l'époque, le vampire était beaucoup moins connu. Donc on pouvait se baser sur du suspense qui fonctionnait à l'époque et qui fonctionne plus du tout pareil maintenant. Donc on a essayé de simplifier au niveau des personnages, mais de garder et cet aspect enquête et évidemment l'aspect fantastique du roman, car il y a vraiment des très beaux moments d'ambiance générale.
Et c'est un roman, vous disiez, énorme. Et vous avez choisi vraiment d'être fidèle au roman. Vous n'avez pas choisi le côté plutôt cinéma. Vous avez choisi vraiment la fidélité au roman.
Oui, on pouvait.
Qui me semblait une très bonne idée.
Oui, merci. On ne pouvait pas lutter avec le cinéma. Enfin, en tout cas, pas avec nos moyens, en tout cas. Et donc, ouais, c'était de revenir aux sources, puisque tout le monde connaît Dracula. C'est un mythe maintenant. Mais pas grand monde a lu le livre. Donc ouais, c'était plus pour revenir à ça, pour essayer également de toucher un public scolaire et puis donner envie de revenir à la base, de découvrir l'auteur.
Ce qu'il y a d'impressionnant dans le roman aussi, c'est que Dracula, on ne le voit que très très peu. Il est souvent suggéré, à part dans la première partie, l'invité de Dracula, où on le voit vieillissant, même aussi inquiétant, mais on le voit vraiment physiquement, tandis que dans le reste du roman, il apparaît de temps en temps comme une vapeur, mais comme une présence qu'on ne peut pas décrire.
Ouais, comme un danger, une menace qui est là. On ne sait pas vraiment ce qu'il fait, comme c'est une enquête et que ce sont les personnages qui racontent dans leurs journaux ce qui se passe. On n'a que leurs impressions, mais jamais de preuves directes. Il n'y a pas jamais d'observateur objectif. Les seules fois où c'est quand un journal donne un fait, mais c'est on a juste deux, trois éléments. C'est au lecteur de faire le travail pour mettre en lien ces éléments, pour comprendre ce qui se passe. Donc il est très peu là. Mais ce qui est plutôt bien pour le suspense, pour la peur, et c'est bien pour nous parce qu'au théâtre, voilà, on joue aussi sur le fait qu'à part au début, on voit ce Dracula vieillissant, donc on ne le voit plus trop sur la suite du spectacle. Il est là, il y a des yeux rouges à des moments donnés, il y a de la musique et tout ça, mais c'est une silhouette.
J'ai oublié de dire que Christopher nous a rejoint.
Bonjour.
Tu as vu la pièce avec nous ?
Oui.
Tu n'as pas lu le roman ?
Non, je le confesse. je dois avouer, je n'ai pas lu le roman. Et je connais essentiellement les films, que ce soit celui de Murnau ou de Coppola. Et je pense aux spectateurs de la pièce. Je trouve que c'est une bonne manière de... que vous ne vous soyez pas basé sur les films. Mais j'avoue avoir été un peu décontenancé. Mais du bon côté. Parce que j'ai trouvé finalement qu'il y avait un côté plus sombre. Plus qui laissait plus place à l'imagination du spectateur. Et je trouvais que c'était une bonne chose. Je pense que je vais peut-être lire le... je vais sûrement lire...
je t'y engage.
Et tout ça qui est... Tout cet aspect qui est soutenu par... J'ai l'impression de voir du théâtre en noir et blanc, en fait. La mise en scène que vous avez choisie, ces jeux d'ombre et lumière, plein d'ingéniosité, me donne vraiment l'impression de voir du théâtre en noir et blanc. J'ai beaucoup apprécié cela.
Bah, tant mieux.
Je me rends compte que je n'ai aucune question là-dessus.
C'est une impression, c'est des impressions. Je vais rappeler quand même que Dracula, c'est un roman qui a été écrit en 1897, mm-hmm. pour ceux qui ne le savent pas, donc en pleine époque victorienne. On est dans vraiment l'Angleterre victorienne. Et il y a quand même pas mal de personnages, puisque vous jouez plusieurs personnages. Sauf vous qui jouez surtout Van Helsing.
C'est ça. Moi, c'est plutôt tranquille au niveau personnage de mon côté. Mais c'est vrai que Hélène de Lorenzi, qui n'est pas là, et Mathieu Rousset ont vraiment beaucoup de personnages. Et c'est une gageure aussi bien en termes de jeu de comédien que techniquement pour eux, ce spectacle.
Je vais me tourner justement vers Mathieu. Mathieu, bonjour. Je ne sais pas si je vous ai dit bonjour déjà.
Re-bonjour.
Re-bonjour. Vous, vous jouez Jonathan Harker.
Voilà, principe.
Bien devant le micro.
Ah oui. Principalement Jonathan Harker, qui est le clerc de notaire qui arrive au début dans le château de Dracula, voilà, et qui découvre petit à petit l'univers du vampire, etc. Et puis ensuite, d'autres personnages qui vont accompagner l'histoire. Quincy Morris, le docteur Seward.
Les fiancés de Lucy, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est ses prétendants. Et voilà, et tous ces personnages-là qui vont finir par se liguer entre eux pour venger la mort de Lucy. Et puis ensuite, qui vont essayer d'aller tuer Dracula en Transylvanie.
C'est un roman où on voyage, c'est une pièce où on voyage, puisqu'on part de la Transylvanie. Au départ, il y a le voyage de Jonathan Harker, donc d'Angleterre vers la Transylvanie, et après, on repart d'Angleterre vers la Transylvanie pour aller au Xir Dracula.
Et en Angleterre, on va sur, à Whitby, oui, et on voyage pas mal dans Londres aussi.
Grazia, on t'a pas encore entendu sur ce Dracula.
Oui, alors moi, j'ai trouvé ça formidable. C'est vrai que la fidélité, vous êtes très fidèle au livre et ça m'a remémoré, ça m'a permis de me remémorer des passages du livre. C'était très émouvant, c'est vrai, par moments. Parce que je pensais l'avoir oublié, ce bouquin, et ben non, pas du tout. Grâce à vous, finalement, j'ai retrouvé exactement la même atmosphère. C'est ça qui m'a énormément plu. Vous avez su garder le mystère de Bram Stoker dans le livre. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est cette mise en scène, comme disait Christopher, en noir et blanc, qui est très cinématographique quand même, et qui nous fait frissonner. Enfin, je veux dire, c'est et l'économie de moyens qui est la vôtre pour mettre en scène tout ça, pour montrer tout ça, c'est une toute petite économie de moyens pour des résultats extraordinaires.
C'est plein de trouvailles, hein. C'est plein de trouvailles.
C'est félicitations. Moi, ouais. Je suis sortie de là vraiment enchantée. Courez-y, les auditeurs, allez-y.
Tant mieux, vous parliez d'atmosphère, c'est vraiment ce vers quoi on voulait aller, qui est de créer des atmosphères. Et voilà, et avec peu de moyens, donc c'était vraiment dans la suggestion, dans le fait que les lumières soient très faibles et concentrées à des petits endroits. Et que quand il y a quelque chose, si on avait du noir et blanc, le rouge pouvait ressortir d'autant plus et tout ouais. ça. Mais bon, après, c'est des essais, c'est du spectacle vivant qui va encore évoluer. Mmh. On est toujours en recherche. Et tant mieux si ça vous a plu.
Mais ce qui est magnifique, c'est aussi la carte qu'on voit donc ah s'afficher oui, oui. à l'écran,
avec
le voyage,
sang, avec cette trace de sang qui voyage,
qui est probablement la trace de sang ou une trace ouais. de sang, oui. Et puis là, oui, voilà, c'est ce qu'on a interprété.
Oui, non, très bien.
Et puis la performance des acteurs, des deux, enfin, excusez-moi, mais principalement les deux acteurs principaux qui est fabuleuse. La protagoniste, je cherchais la protagoniste féminine qui se change à une vitesse fulgurante, et puis monsieur qui prend des
Mathieu Rousset.
qui prend les accents, qui change le ton de la voix, c'est formidable ça. Moi j'ai trouvé ça vraiment, c'est une très très belle performance. Félicitations.
Ils ont beaucoup travaillé.
Ça se sent. Ouais. On va voir si on peut avoir un petit extrait. On va demander à Bruno de nous mettre le petit peu de musique en fond sonore pour que vous puissiez faire l'extrait.
Veillez attentivement sur celui qui sera mon hôte. Sa sûreté est pour moi très précieuse. C'est un Anglais, donc il aime l'aventure. La neige, la nuit et les loups peuvent être pour lui autant de dangers. Ma fortune me permettra de récompenser votre zèle. Dracula.
Le journal de Jonathan Harker, 3 mai.
Quitté Munich à 8h du soir, le 1er mai. Arrivé à Vienne, de bonne heure, le lendemain matin. Nous aurions dû y être à 6h46. Mais le train avait une heure de retard. Budapest est une très belle ville. J'ai eu l'impression très nette de quitter l'Occident pour entrer dans le monde oriental. Ayant quitté Budapest, sans trop de retard, nous arrivâmes le soir à Klosenburg. Je m'y arrêtai pour passer la nuit à l'hôtel royal. Je déjeunais en hâte, car le train partait quelques minutes avant 8 heures. Ou plus exactement, il aurait dû partir quelques minutes avant 8 heures. Mais j'attendis plus d'une heure dans le compartiment où je m'étais installé avant que le train ne démarrât. Il me semble que plus on va vers l'est, plus les trains ont du retard. Qu'est-ce que cela doit être en Chine ? Il faisait déjà nuit lorsque nous arrivâmes à Bistritz.
Merci beaucoup pour cet extrait. Merci, merci beaucoup. Mais courez-y vraiment, on a passé tous une très très bonne soirée. Je rappelle que c'est au Carré Rondelet. C'est donc jusqu'au 17 février, ce soir et demain, c'est à 20h30. Dimanche, c'est à 18h. Bravo pour votre travail à toute l'équipe, hein, parce qu'on a vraiment retrouvé le roman. Et ceux qui n'ont pas lu le roman, lisez-le. Christopher, je m'adresse à toi. Eh bien, pour se quitter, ben, j'ai trouvé dans mes archives un Henri Salvador des années 70 qui a fait un Dracula cha-cha-cha. Qui est très très drôle. Vendredi Théâtre, c'est terminé. Merci de nous avoir accompagnés pour ce troisième plateau. À la semaine prochaine. Merci à Gradia, merci à Christopher. À et on se quitte avec Henri Salvador, Dracula, cha-cha-cha.
Dracula! Dracula, Dracula, Dracula. Sortant doucement de sa tombe, il va par les nuits les plus sombres, frappé dans son grand manteau noir. Dracula, Dracula, Dracula. Ses yeux lancent d'étranges flammes, ses dents sont pareilles à des lames. Il faut l'avoir vu pour le croire.
Maman!
Plus agile qu'un serpent, il s'introduit prestement dans la maison d'une jolie femme.
Bonjour, madame.
Pour la vide de son sang, dans le cou, il la mord de toute son âme. Dracula, Dracula, Dracula. Et lorsqu'il voit le jour qui pointe, desserrant soudain son étreinte, il part retrouver le néant. Dracula, Dracula, Dracula. Le soir, les maisons se verrouillent. Les gens, pour prier, s'agenouillent. Guettant tous les bruits du dehors.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Dracula, Dracula, Dracula. Au moindre coup dans une armoire, on entend claquer les mâchoires et les chiens hurlent à la mort. On s'aperçoit tout à coup que les durs ont les genoux qui jouent soudain des castagnettes. Quant aux gendarmes, ils sont prêts à ne prendre que la poudre des scampettes.
Dites, brigadier, je fous le camp, j'ai trop peur.
Dracula, Dracula, Dracula. Ma belle-mère, ça me déconcerte. Laisse toujours sa porte entrouverte. Et tu ne viens jamais chez moi.
Oh,